Mboujimaï sur 93,9. Nous sommes à Mboujimaï pour faire un état des lieux du secteur de l'éducation. Il faut savoir que les autorités provinciales de l'éducation et les gestionnaires des écoles de la province scolaire Kassai Oriental 1 se sont réunis la semaine dernière pour les travaux de promotion scolaire. Cette rencontre est une occasion pour dresser un tableau général du fonctionnement du secteur éducationnel pour une année scolaire. Et à l'issue des travaux de cette année en cours, le conseil que la province éducationnelle Kassai Oriental 1 à un nombre insuffisant d'écoles. Nous en parlons justement avec Billy Yvon, puisque vous êtes là, Billy. Avant tout, j'aimerais signaler, je crois qu'il est bon de signaler donc, Billy, à nos auditeurs, comment se sont déroulés les travaux.
Oui, Nicole, j'aimerais tout d'abord signaler que le Kassai Oriental, comme on dit, est subdivisé en trois provinces éducationnelles. Il s'agit des Kassai Oriental 1, Kassai Oriental 2 et Kassai Oriental 3. Kassai Oriental 1 est composé de la ville de Mboujimaï, le district de Chilengué et la ville de Monétifou. Comme vous venez de le souligner, les assises de travaux des promos scolaires constituent une sorte d'évaluation du fonctionnement des activités éducationnelles en milieu scolaire. Plusieurs aspects ont été abordés en ce jour-là, notamment les procédures d'agrément des écoles, les modifications des structures des écoles, l'état des lieux des infrastructures scolaires et bien d'autres points, encore dans l'état de l'amélioration des conditions de travail dans le secteur de l'enseignement pour la province scolaire Kassai Oriental 1. Ici, nous voulons parler des infrastructures scolaires, leur état ainsi que leur nombre. Les données disponibles nous renseignent qu'il y a au total 446 établissements, écoles et bureaux confondus. La ville de Mboujimaï ne compte que 176 établissements. Juste pour votre gouverne, la province du Kassai Oriental dans son ensemble compte 2675 établissements, dont 96 bureaux gestionnaires et bureaux d'inspection. Comme conclusion, Nicole, la province scolaire Kassai Oriental 1 dispose d'un nombre insuffisant d'établissements scolaires.
Oui, alors en comparant ces données chiffrées de ces copées à celles de deux autres provinces, qu'est-ce qui en ressort?
En croyant les propos du chef de division provinciale de l'éducation, la situation n'est pas du tout favorable pour le Kassai Oriental 1. Comme certains pourraient le croire, Fernand Moubiaï, il est proviseur de Kassai Oriental 1.
La province de Kassai Oriental 3 vient en première position par le nombre d'écoles et des bâtiments construits en durable. Kassai Oriental 1 vient en deuxième position et la province éducationnelle de Kassai Oriental 2 en troisième position. Comparativement à chez nous, si vous allez par exemple dans des territoires d'élus entre Lupota et Kanichina, vous verrez que les écoles sont construites en briques avec paille ou tôle. Ce qui n'est pas le cas pour les districts de Chilengué. On a des écoles qui présentent vraiment un visage piteux. Il y a Randajika aussi et Kabinda.
Alors, comment le problème explique-t-il cette situation, Billy Yvon?
Les raisons sont liées tout d'abord à l'histoire du pays et également aux conditions qu'offre la nature, explique le chef de division provinciale de l'éducation. Je vous propose de l'écouter.
Les grandes écoles que nous avons actuellement et qui sont d'ailleurs vétustes sont l'œuvre des missionnaires catholiques et protestants. Ces missionnaires ont plus construit dans les divisions 2 et 3 que dans la division 1. Vous n'avez qu'à voir dans le district de Chilengué. Et quand vous allez, par exemple, à Kabinda, à Ngandangeke, à Mwenedisu, les missionnaires ont fait un grand travail. Il y a aussi le fait que les deux autres divisions sont favorisées par la nature. Les gens se sont bien organisés là-bas. Il y a des cours pour la construction de briques. Là, on peut trouver facilement les matériaux de construction tels que les sticks, la chaume et consorts. Tandis que le district de Chilengué est situé presque dans la savane. Et cela pose problème dans la construction et la maintenance de l'infrastructure scolaire.
Alors, Billy Yvon, les participants assis ont posé les problèmes. Il revient normalement au gouvernement de se prononcer sur sa politique d'amélioration du secteur éducationnel. Est-ce qu'il y a des solutions concrètes en vue?
Nicole, parler immédiatement des solutions concrètes, je comprends par là des actions à court terme. Dans ce cas, je ne pense pas que ce soit le cas. Toutefois, le gouvernement provincial, par le biais du ministre de l'Éducation, déclare qu'il y a quand même un budget pour la construction des écoles. Madame Ngolo Okundji est ministre provincial de l'Éducation.
Le gouvernement provincial s'était engagé à construire une école par territoire selon que le budget le permettrait et pour essayer un peu de résoudre ce problème-là. Le budget déjà fait, on attend plus de l'exécution. Les travaux devaient commencer au mois d'avril, mais on a connu un petit retard. Je crois que d'ici là, ça pourrait intervenir. On attend le retour du gouverneur, on sera fixé.
Oui, voilà, Nicole.
Alors, je crois qu'il est bon que vous soyez compété, Billy, voir ce sujet, parce que il est bon de signaler quand même qu'en rapport avec le nombre ou l'état des infrastructures scolaires, quelques recommandations ont été formulées, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait, Nicole. Je disais qu'avant de vous quitter, il faut déjà signaler qu'en rapport avec le nombre ou l'état des infrastructures, il y a eu des recommandations, bien entendu. C'est notamment la construction en milieu rural des bâtiments scolaires en matériaux finis durables qui doivent être œuvre des autorités politico-administratives locales. À ce propos, le chef de division provinciale a reconnu qu'en ce milieu, le CCOP n'est pas aussi exigeant quant à la mécanisation de telles écoles, qui du reste doivent quand même être viables. Avec cette démarche, il pense qu'il y aura une promotion de l'enseignement dans la province scolaire du Kassai Oriental 1, en attendant les actions des grandes envergures de la part du gouvernement provincial et central.
Merci beaucoup, Billy Yvon, pour cette précision. On va à présent donner la parole à notre invité, professeur Pierre Gambembo, chargé des programmes éducation à l'UNESCO. Nous aurons également un autre invité qui est bien placé pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez déjà réagir avec vos questions, vos témoignages au 081 070 2050. Oukati, pour que la paix ne soit pas qu'une guerre. Voilà, nous sommes avec vous, auditeurs de Radio Capi, pour vous éclairer sur cette question qui concerne justement le secteur de l'éducation. Nous avons dit que nous avons deux invités dans cette émission pour cette question. Nous avons par exemple le professeur Pierre Gambembo, chargé des programmes éducation à l'UNESCO. Professeur, bonjour.
Bonjour madame.
Alors vous avez eu à suivre notamment le point qu'on arrive à faire avec notre confrère sur l'état des lieux, hein, du secteur de l'éducation. Nous sommes là du côté de Mbujimayi. Qu'est-ce que vous retenez à ce sujet?
Bien, je retiens que la situation pour Mbujimayi est une situation catastrophique, mais il faut dire qu'elle est également une situation générale pour l'ensemble du pays. Au-delà de ce que Mbujimayi peut décrire comme situation, la problématique se ramène finalement à la question des possibilités d'accès des enfants à l'école. Est-ce que les infrastructures scolaires, l'État, donne-t-il à tous les enfants l'opportunité d'entrer à l'école? Il est démontré à ce jour que près de 5 millions d'enfants congolais ne peuvent pas aller à l'école alors qu'ils veulent bien y aller. Parce que précisément, il n'y a pas suffisamment d'infrastructures pour pouvoir les accueillir.
Il n'y a pas assez d'écoles.
Il n'y a pas assez d'écoles.
Mais il y a aussi un autre problème, il faut le relever. C'est aussi le problème des moyens financiers. Hein.
Oui, disons que le moyen financier se rapporte à l'accès, mais il pose également le problème de la qualité. Parce qu'en fait, nous, à l'UNESCO, nous pensons que l'accès à lui seul ne suffit pas. Ce n'est pas tout d'envoyer les enfants à l'école, il faut également savoir qu'est-ce qu'ils ramènent de l'école en partant de là. C'est pour ça que nous mettons l'accent à la fois sur l'accès, c'est-à-dire sur les capacités du système à recevoir les nouveaux candidats, mais également la qualité, c'est-à-dire ce que l'enfant reçoit à la sortie de son école, de quelles compétences il est doté à l'issue de sa formation.
En tant que chargé des programmes éducation à l'UNESCO, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider tant soit peu le secteur de l'éducation dans le Kassai?
L'UNESCO est davantage axé sur la qualité. Nous disons qu'il y a d'autres structures qui peuvent travailler sur l'accès. Nous travaillons sur l'accès, mais principalement, de manière prioritaire, nous travaillons sur la qualité. Nous travaillons sur ce qu'on appelle le soft. Quelles sont les actions que nous posons pour pouvoir aider à l'amélioration de la qualité du système éducatif congolais? Nous participons notamment à la formation des enseignants. Il existe au niveau de l'UNESCO un programme qu'on appelle TISA. TISA, c'est en anglais, c'est une initiative de formation des enseignants en Afrique subsaharienne. À travers cette initiative, nous essayons de donner aux enseignants les capacités et les compétences nécessaires pour dispenser l'enseignement de qualité. Nous intervenons également dans la formation des inspecteurs, en particulier depuis l'année 2005 jusqu'en 2010, nous aurons formé à peu près 2 000 sinon 3 000 inspecteurs, nouveaux inspecteurs que le ministère peut recruter, mais également les cyclades dans ces inspecteurs. Nous pensons que ce faisant, nous contribuons à l'amélioration de la qualité de l'inspection, donc finalement à la qualité de l'éducation elle-même.
Est-ce que vous avez l'impression que vous arrivez à atteindre réellement vos objectifs?
Les objectifs à court terme, oui, parce que vous, comme vous le savez, les besoins sont immenses, ils sont énormément immenses, et nous ne pouvons pas à nous seuls prétendre couvrir tous les besoins. dans la mesure du possible, l'UNESCO s'efforce de faire ce qu'elle peut faire et nous pensons que par rapport aux objectifs que nous nous fixons à court terme, nous y arrivons quand même.
Mais curieusement, on ne ressent pas vraiment hein, les actions de l'UNESCO à travers le pays. Hein. Vous vous en rendez compte au moins?
Bon, ça c'est vous qui le dites, c'est à vous à nous le dire. Mais l'UNESCO, partout où elle passe, elle essaie de faire voir qu'elle est là. Et si vous passez maintenant en province, dans toutes les provinces d'ailleurs, on a commencé à Kinshasa, mais depuis l'année dernière, on est de plus en plus en dehors de Kinshasa, on va en province. Quand vous posez la question à ceux avec qui nous parlons, à ceux à qui nous apportons notre expertise et notre qualité, ils parlent de plus en plus de l'UNESCO.
Oui, mais votre action se limite peut-être dans la formation des enseignants, des inspecteurs. Mais ça va pas au-delà.
Formation des enseignants, formation des spectateurs, mais également là, nous contribuons à la production du matériel didactique. Par exemple, nous contribuons à la production de programmes. Nous contribuons à la production des manuels scolaires. Je pourrais vous dire que l'année dernière, par exemple, on a monté un atelier au cours duquel on a relu tous les manuels scolaires qui existaient, au niveau primaire notamment, de manière à expliquer les stéréotypes sexistes. Vous savez que la question du genre est une question qui est fortement débattue actuellement. C'est un aspect sur lequel nous intervenons. Là encore, nous venons d'intervenir sur le VSIDA. Vous savez également que c'est une question de l'heure. Nous essayons d'aider le ministère à restructurer le curriculum de manière à y intégrer l'éducation préventive VSIDA. Donc, c'est pour vous dire que notre action ne se limite pas simplement à la formation des enseignants et des inspecteurs, mais on rentre également dans la production de matériel didactique.
Pour le problème posé à Mbujimayi, vous avez suivi notre confrère, Billy Yvon, il a parlé de l'insuffisance du nombre des écoles. Est-ce que l'UNESCO peut intervenir dans ce sens?
Nous intervenons dans ce sens dans la mesure où nous aidons le ministère à avoir ce qu'on appelle une carte scolaire. Aujourd'hui, on ne peut pas résoudre le problème d'accès si au départ on n'a pas une carte scolaire. La carte scolaire permet de savoir où implanter une école parce qu'il y a une demande là-bas. Vous verrez par exemple, Mbujimayi se plaint, mais quand vous allez ailleurs, vous verrez par exemple qu'il y a une répartition inégale des écoles. Il y a des coins qui ont plus d'écoles, d'autres n'en ont pas suffisamment. La carte scolaire doit pouvoir pallier à ces déséquilibres de manière à répartir équitablement le nombre d'écoles à travers le pays en tenant compte des besoins qui sont exprimés. Donc la question, elle suppose qu'au départ, il y ait une carte scolaire, une planification qui dit où implanter une école parce qu'il y a un besoin réel et une demande réelle qui s'exprime là-bas. Et évidemment, quand la carte est établie, il faut maintenant passer à l'implantation réelle des écoles. Et c'est pour ça qu'il faut que l'UNESCO intervienne pour aider le ministère.
Oui, donc vous allez intervenir, mais ce ne sera pas à poster. Peut-être que ce ne sera pas a priori, ce sera a posteriori.
Non, nous intervenons a priori. Nous intervenons a priori parce que la carte scolaire, elle se situe avant l'implantation des écoles proprement dites.
Alors, nous avons également un deuxième invité dans ce studio. Il est au bout du fil. C'est Pascal Kabamba Chibang. Il est chef de cellule CCOP au Conseil oriental. Pascal Kabamba, bonjour.
Bonjour, maman.
Alors, pour parler des problèmes que l'on rencontre et qu'on retrouve aujourd'hui à Mbujimayi, nous avons eu à faire un état des lieux du secteur de l'éducation. Dans cette partie de la RDC, nous avons appris que aujourd'hui le Kasaï Oriental 1 a un nombre insuffisant d'écoles. Comment est-ce que vous, au niveau de CCOP, vous arrivez à trouver des solutions pour faire face à ce problème?
Je crois qu'il y a une distinction à faire dans la saisie de ce problème. Il est vrai que d'une manière générale, nous avons à résoudre le problème des infrastructures, notamment les bâtiments scolaires d'abord. Mais là, il faut constater une contradiction que nous vivons sur le terrain. La ville de Mbujimayi, tout comme la ville de Mwenedjitu, les deux villes, les écoles des deux villes sont surpeuplées. Ça veut dire que le nombre d'écoles pour recueillir la population scolarisable est insuffisant. Il faudrait que l'on puisse améliorer, augmenter les infrastructures. Par contre, quand nous allons dans le rural, le périurbain, notamment dans le district de Chilene qui est le mien, là nous avons des écoles qui sont plutôt sous-peuplées. Il y a des peuplements.
Pourquoi?
Là joue notamment à cause du phénomène des enfants des mines, beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école, ou ils vont à l'école, ils ont vite fait de l'abandonner quand ils atteignent la troisième primaire, la quatrième surtout, et ils vont dans l'exploitation artisanale des mines. Si tous ces enfants pouvaient être récupérés dans l'école rurale, il est probable que les écoles que nous avons dans le rural du district de Chilengue pourrait être non seulement suffisamment peuplé, mais pourrait peut-être présenter un état de besoin en matière d'amélioration des infrastructures.
Oui. Alors aujourd'hui,
nous avons donc des écoles, nous avons des écoles, mais qui sont très peu
fréquentées.
Alors qu'en ville, il y a surpeuplement.
C'est ça. Alors aujourd'hui, le CECOP, vous êtes limité de votre problème, hein. Vous avez des écoles qui sont insuffisantes en ville. Heureusement, dans le milieu rural, les écoles ne sont même pas fréquentées parce que les enfants préfèrent aller chercher de l'argent dans les mines. Alors comment vous arrivez à trouver des solutions pour faire face à ce problème? Est-ce que vous pouvez seulement faire face à ce problème?
Ici sur place, nous avons il y a deux efforts assez louables auxquels nous sommes en train d'assister. L'UNICEF et Save Children sont en train de monter des actions qui pourraient être assez significatives en matière de récupération des jeunes qui sont dans les mines. Mais en dehors des actions menées par l'UNICEF et Save Children, il faudrait que l'on puisse également aussi procéder à une sensibilisation profonde au niveau de la population, au niveau des parents, donc des communautés locales. Pour que les communautés locales aient d'abord l'opportunité qu'il y a à envoyer les enfants en à l'école, et ensuite qu'elles aient la conviction de pouvoir se prendre en charge en attendant que l'État fasse ce qu'il doit faire, il y a déjà des actions menées du côté de l'État.
Oui, parce que
au Fonds social et autres organismes, il y a quelque chose qui se fait.
Oui.
Il faudrait que les parents, de leur côté aussi, comprennent qu'à un moment donné, il faut se prendre en charge pour suppléer aux insuffisances de services.
Parce que, Mama, vous avez cité l'UNICEF, vous avez cité Save the Children, et que l'UNESCO vous soutient également dans vos efforts.
Personnellement, je suis mal informé sur la contribution de l'UNESCO de ce côté-là. Je n'ai pratiquement pas de contact avec l'UNESCO. Je ne saurais pas dire s'il a des actions ici sur le terrain ou pas. Par contre, l'UNICEF et Save Children
sont très bien. Alors, on a justement un responsable de l'UNESCO dans ce studio avec nous. Il s'agit du professeur Pierre Gabemba, chargé des programmes éducation à l'UNESCO. C'est le moment d'en profiter pour prendre contact avec lui. Professeur Pierre Gabemba, vous avez suivi tout à l'heure le point de vue de Pascal Kabamba à l'UNESCO. On ne ressent pas la présence de l'UNESCO là-bas, dans le Kassai.
Non, monsieur Kabamba dit qu'il n'est pas au courant, qu'il n'a pas beaucoup de contacts avec nous, c'est possible. Je voudrais simplement dire à M. Kabamba que pas plus tard qu'au mois de mars, 1er mars, une mission s'était rendue en Mbujimayi. Elle a travaillé avec l'inspecteur principal provincial dans la formation des inspecteurs. Cette mission a pu former 30 nouveaux inspecteurs et elle a recyclé 10 autres. Ça, c'est la deuxième phase du projet. Je voudrais également dire à M. Kabamba que tout prochainement, d'ici avant la fin de l'année de toute manière, une autre mission se rendra en Bougemaï pour former environ une centaine d'inspecteurs. C'est peut-être l'occasion que M. Kabamba prenne contact avec cette mission pour savoir ce que l'UNESCO fait.
Mais vous avez suivi tout à l'heure, il a relevé un problème sérieux. Il y a bon nombre d'enfants qui ne vont plus à l'école aujourd'hui. Ils préfèrent s'adonner aux activités minières.
Oui, à mon avis, ceci pose la question fondamentalement de savoir qu'est-ce que l'école apporte à l'enfant. L'école, en fait, doit être un lieu où l'enfant vient acquérir des compétences nouvelles qui lui permettent de réussir dans la vie. Mais si l'école ne peut pas lui donner cela, l'enfant a tout à fait, pas le droit à l'enfant, c'est carte de l'école. Donc la question se ramène finalement au contenu de la formation. Qu'est-ce que l'école entend dispenser? Et là, c'est toute une question qu'il faut prendre à bras le corps sur laquelle il faut seulement revenir.
Pour mais
est-ce qu'il ne faut pas réformer le contenu de la formation?
Oui, mais aujourd'hui, on est en train de former des enseignants, des enseignants qui vont enseigner.
Oui.
Ils vont enseigner alors qu'il n'y a pas d'enfants qui fréquentent les écoles. À quoi bon?
Non. Les enseignants, on en a un nombre insuffisant. Donc on ne peut pas dire que ceux qu'on forme maintenant, ils vont être surplus. Non. Il faut écarter cette hypothèse.
Non, mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont chômeurs aujourd'hui, qui n'enseignent plus, parce qu'il n'y a pas d'enfants. Il y a bon nombre d'enfants aujourd'hui qui n'hésitent pas à aller chercher du travail ailleurs. Et les parents les encouragent.
Les statistiques dont nous disposons, nous, montrent qu'en réalité, le ratio enfant-élève est dépassé. Il n'y a plus d'enfants
par enseignant qu'il n'en faut théoriquement. Ça signifie qu'en réalité, il y a moins d'enseignants qu'il n'en faut pour arriver à ce minimum-là, c'est à ce qui est accepté. Donc, il y a 40 enseignants. On ne peut pas dire qu'il y a un nombre superflu d'enseignants.
Oui, mais s'il y a 40 enseignants aujourd'hui en RDC, c'est pas pour ce problème. Hein. C'est plutôt parce que la plupart estiment qu'ils ne gagnent pas grand-chose. C'est donc pour laquelle ils préfèrent ne plus enseigner.
Tout à fait d'accord avec madame, mais ça, c'est notre débat.
C'est notre débat, mais au niveau de l'UNESCO, vous y pensez tout de même?
L'UNESCO n'a pas comme mission d'intervenir dans la rémunération des enseignants pour dire les choses comme elles sont. Parce que là, c'est effectivement déjà la rémunération des enseignants.
Tout à fait.
L'UNESCO n'a pas pour mission de subvenir aux besoins financiers des enseignants. L'UNESCO peut cependant faire un plaidoyer auprès de qui des droits pour que la situation soit améliorée. Et c'est cela que l'UNESCO fait tous les jours avec d'autres partenaires. Nous nous réunissons régulièrement.
Lesquels?
Bon, selon les partenaires qui interviennent à l'éducation, il existe au niveau du Congo un comité qui réunit les partenaires techniques et financiers, bilatéraux et multilatéraux qui interviennent dans l'éducation qu'on appelle comité de concertation. Donc, à ce niveau, tous les jours, nous essayons de faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour que la situation de l'enseignant soit améliorée. Parce que, comme vous le constatez, cette situation est connectée aux deux autres problèmes majeurs dont je parlais, le problème de l'accès, le problème de la qualité. Si l'enseignant n'est pas suffisamment appris, s'il n'est pas suffisamment motivé, il ne va pas fournir un travail de qualité. S'il ne fournit pas un travail de qualité, la qualité de l'éducation elle-même, elle baisse. Par ailleurs, les meilleurs éléments qui auraient pu aller à l'enseignement n'y vont pas parce que les conditions de travail ne sont pas très alléchantes. Et donc, ça pose tous les problèmes qu'on a vus tout à l'heure liés à la fois à l'accès et à la qualité de l'éducation.
Professeur Pierre Kambembo, on va peut-être aborder cette question une autre fois. On va revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup à dire. Il faut aussi savoir si les formations que vous arrivez aujourd'hui à disponibiliser auprès des enseignants donnent de bons résultats. On aura l'occasion de revenir là-dessus hein, prochainement pour en savoir un peu plus. Mais aujourd'hui, on s'arrête là.
Je voudrais vous inviter pour dire que la formation inspecteur qui a eu lieu, on vient d'en faire une évaluation. C'est un consultant extérieur qu'on a recruté qui a fait l'évaluation, qui devra donc nous dire si c'était bien ou pas fait. Je vous invite à venir le 10 mardi, après-midi, à 14h, au Cercle Laïs, vous serez peut-être au courant des résultats de cette évaluation.
Vous pouvez compter sur nous.
Merci beaucoup.
Allez, merci, on s'arrête là, professeur Pierre Kambembo. Nous remercions également Pascal Kabamba-Chivang, chef de cellule CQP au Conseil oriental, d'avoir été le nôtre. On se retrouve prochainement pour une autre émission. Au revoir.
Merci.